Ça fait déjà 2 semaines et demie que le papa de Catherine, mon beau-père, est décédé. Aujourd'hui, il aura eu 91 ans. Alors, vous allez dire pourquoi je vous parle de ça. Jean-Marc parlait d'adoption tout à l'heure. J'ai connu mon père biologique pendant 14 ans. Et j'ai connu mon beau-père, le papa de Catherine, pendant plus du double, pendant 33 ans. Et c'est vrai que c'était une difficulté dans ma vie, la relation au père. Ça a été des temps de guérison que de rencontrer mon père céleste. Quand j'étais jeune chrétien, j'entendais des jeunes dire, voilà, papa qui est dans les cieux, puis ça me semblait tellement. Il m'a fallu des années pour pouvoir m'approprier cette notion, papa. Il m'a fallu un petit peu le temps pour appeler mon beau-père, papa, ma belle-mère, maman. Voilà, c'est des parents d'adoption. Dieu est un père d'adoption. Combien de temps est-ce qu'il nous faut pour pouvoir dire de manière publique, pas seulement dans nos cœurs, mais pouvoir le confesser, le proclamer, Papa, Abba Père. Jésus priait comme cela, et je crois que c'est important pour nous aussi de prier comme cela, de nous approprier cette notion de Dieu comme père, comme papa. Alors ce sont des parts, voilà, comment on dit, il n'y a pas le cachet, c'est vrai que ça remue, ça bouleverse, ça chamboule, voilà, dans la vie profonde, dans la vie affective, mais ça fait tellement de bien d'être aimé par un père, une mère, par un papa. Une maman, j'ai le privilège depuis quelques semaines d'être grand-père. Comme j'ai des filles, je commence à avoir des beaux-fils. Donc, encore quelques années, on devient presque un patriarche. Et puis, on se dit, voilà, on devient un point de repère aussi pour d'autres. Comment est-ce que cette paternité peut s'incarner, ce rapport à l'amour, simplement? Se savoir aimer, se reconnaître comme aimable. Il m'a fallu plus de 10 ans, voilà, étant jeune chrétien, mais pour me dire, est-ce qu'il y a des choses d'aimables en moi? C'est des temps de guérison intérieure. Se reconnaître comme aimable ou comme digne d'être aimé, ça peut nous causer des soucis, des interrogations, des difficultés, des remises en question. Il y a un chant depuis le début de la semaine qui m'a trotté en tête, et puis je me disais, tiens, ça vient d'où? Puis j'ai fini par le retrouver. C'est juste deux mots. Savoir aimer. Je ne sais pas si vous connaissez le chant, je vais vous en dire les paroles. Je ne le passe pas, voilà, on est dans une église, je n'ai pas voulu passer une musique du monde, mais si vous avez l'occasion chez vous, c'est un texte de Pascal Obispo et de quelqu'un d'autre, et ça a été chanté par Florent Pagny il y a 20 ans maintenant, c'est en 97. Savoir aimer, savoir sourire, savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Apprendre à aimer. Aimer sans attendre. Aimer à tout prendre. Apprendre à sourire rien que pour le geste, sans vouloir le reste. Apprendre à vivre et s'en aller. Savoir attendre. Bon, bien sûr, là, on est dans le bonheur des relations hommes-femmes. Savoir souffrir en silence, sans murmure, ni défense. Ni armure, souffrir à vouloir mourir, et se relever, comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, apprendre à rêver pour deux, donner un sens, donner sans rature, sans demi-mesure, rester vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer. Je suis pas très poète, donc parfois il y a des textes qui me touchent, et puis celui-là, je sais pas, j'ai pas écouté ça depuis des années, et puis tout d'un coup ce texte m'est revenu en tête, donc j'ai été rechercher les paroles. Bien sûr, c'est un chant qui parle des relations, voilà, homme-femme, mais notre relation avec le Christ Jésus, il y a quelque chose peut-être qui peut mieux faire, qui peut être encore plus grand, plus fort que ce texte. Mais ce texte m'a touché. Savoir aimer, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit apprendre? Est-ce que l'on se sait aimer? Pour une parole de ce matin, pendant une dizaine de jours, pareil, j'avais juste deux mots dans mon cœur. Quatre mots. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Si on faisait un quiz, c'est que je vous disais, ça sort d'où ces paroles? C'est dans quel texte de l'Écriture? Oh, j'ai dû quand même rechercher un petit peu, parce que c'est le texte que l'on connaît. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Est-ce que nous avons la certitude ce matin? Quand nous nous approchons de Jésus, qu'il vient vers nous, qu'il nous prend dans ses bras et qu'il nous dit, voilà, je t'aime. On a un privilège quand on est devant, c'est toujours de voir les visages frontalement. Parfois, on voit les sourires, on est heureux. Parfois, on perçoit aussi les tristesses, les difficultés les uns des autres. Souvent, j'aimerais me lever. Et pouvoir dire que Dieu est celui qui aime. C'est pas ma nature de... Voilà, Jean-Marc pourra en témoigner, d'être un grand... d'avoir des grands débordements affectifs. Voilà, peut-être que la disparition du papa de Catherine, voilà. Là aussi, ça transforme les choses. C'est des pages qui se tournent. Voilà, mais c'est sentir aussi, je me dis, mais depuis plus de 40 ans, combien j'ai été aimé. Et ce matin, j'aurais voulu dire à chacun aussi qu'il est aimé. Pas seulement par moi, par l'équipe pastorale, par l'amour fraternel. Mais chacun est aimé par le Dieu, par le Père, par le Papa, qui est dans les cieux librement, gratuitement. C'est un privilège. C'est pas seulement moi, c'est pas seulement ce témoignage qui le dit. C'est toute l'Écriture. Dans toute l'Écriture, nous avons cette certitude que Dieu nous aime. Mais j'aimerais vous lire une partie de ce texte de Marc au chapitre 10, le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, elle l'aima. Je ne vous raconte pas la suite. Je vous laisserai la lire chez vous. Tête reposée, ce n'est pas une histoire facile. Ce qui me marque dans ce texte, c'est que Jésus a aimé cet homme malgré sa réponse. Et j'aimerais vous dire ce matin que, voilà, Jésus aime chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Après, la question, c'est quelle est ma réponse ? Est-ce que j'ai envie d'accueillir, de vivre pleinement de cet amour ? C'est un privilège qui est réservé à chacun. Quelles que soient après les difficultés de la vie, ça n'enlève rien aux épreuves que les uns les autres on doit traverser. Parfois je me dis, bon, les miennes sont assez, finalement assez légères. Même si, voilà, l'adolescence, l'enfance n'a pas toujours été des plus faciles. Mais en même temps, je me dis, waouh, je suis privilégié. Je suis privilégié. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Est-ce que nous avons conscience ce matin que le regard de Jésus est sur chacun ? Aussi pour lui dire ou lui redire qu'il nous aime. Il a aimé ce jeune homme. Voilà, vous lirez la réponse qu'il a faite. Cette réponse a interrogé les disciples qui ont fait « Ouh, comment ça transpirait ?» Difficile pour un riche d'aimer Dieu. Jean-Marc parlait de quelqu'un qui a eu des milliards de dollars sur son compte, virtuellement, pendant un bref instant. Je ne sais pas ce qu'il a ressenti. On dit que pour les gens qui gagnent au loto, la vie n'est parfois pas forcément plus facile. Il faut apprendre à gérer la richesse. En tous les cas, là, cette richesse fait que ce jeune homme, s'appuyer sur la loi, c'était confortable. J'ai accompli, j'ai fait toute la loi. Je n'ai pas tué, j'aime ma mère, je ne suis pas adultère. Puis je me suis dit à un moment donné, mais c'est par toi, de tes richesses, viens et suis-moi. Ça, vous lirez la suite chez vous, c'est un petit peu coincé. Ça a effrayé les disciples. Qui peut être sauvé ? Puis j'ai dit, ben oui, effectivement, pour les riches, c'est difficile. C'est difficile. Alors les disciples, tout de suite, baissent les bras et disent, c'est impossible. Compliqué d'être sauvé. Compliqué de vivre avec Dieu. Compliqué de lâcher prise de choses qui nous ont envahis. Qu'est-ce qui envahit l'être humain, les hommes, au point que c'est difficile pour eux de lâcher prise, de se séparer ? En l'occurrence, là, c'était la richesse, mais ça peut être bien d'autres choses dans nos vies. Les biens matériels, les amours. Il est possible d'être aimé, de se laisser aimer par Dieu. Quelles que soient les circonstances de notre vie, qu'elles soient faciles, difficiles, je vous rassure, sur 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans de vie, il y aura des périodes faciles, il y aura toujours des moments difficiles à traverser. Mais est-ce que dans ces moments-là, j'ai l'assurance que je suis accompagné, que je suis aimé de quelqu'un de plus grand que moi ? Que je peux appeler papa, faire appel à une identité, à une protection, à un accompagnement. Je ne vais pas l'afficher, mais je vais vous donner quelques versets de l'Écriture qui nous disent que Dieu nous aime. Je ne vous dirai pas les références. Allez, j'aime bien taquiner un petit peu comme cela, voilà, ça peut permettre de trouver la motivation pour chercher ces textes. Je t'aime d'un amour éternel. Pas seulement ce matin, ni cet après-midi, ni dans la semaine qui suit, mais jusque dans l'éternité. L'amour de Dieu veut être présent dans nos vies, tout le temps. Car Dieu a tant aimé le monde. Bon, là, je pense que la référence, ça va. Vous la retrouverez. J'ai rencontré 2-3 hommes au début de ma conversion, dont 2 qui étaient militaires et un qui ont réagi à cette, simplement en l'entendant dans une prédication. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est aussi moi, c'est moi. Je suis le monde pour Dieu, Dieu m'aime. Jésus a aimé Marthe, Marie, Lazare, il le leur a dit. Il les a aimés profondément, puissamment. Il a eu une relation personnelle avec chacun d'eux. Il a ressuscité Lazare. Et au moment de le faire, il nous a dit que ses entrailles étaient émues parce qu'il l'aimait. Il nous a dit aussi que Jésus a aimé les siens, ses disciples, et qu'il mit le comble à son amour pour eux. Les églises évangéliques, on n'a pas l'habitude du lavement des pieds. C'est à cette occasion-là que Jésus, qui est roi, Seigneur des Seigneurs, s'est ceint d'un linge et puis a fait une chose. Aujourd'hui, ce serait quoi le lavement des pieds? Je ne sais pas. Parfois, je me dis, moi j'ai souvent de la joie quand je viens, que je fais un coup de propreté dans l'église. Les tâches les plus humbles peuvent nous rendre joyeux. C'est aussi des actes d'amour, désintéressés. Jésus a mis le comble de son amour pour ses disciples. Le Père aime le Fils qui nous aime. Et le Fils nous aime du même amour du Père. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. En aimant Jésus, nous sommes aimés de Dieu lui-même. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il vous a aimé. Un amour plein de miséricorde. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande. Christ Jésus, le Fils du Dieu vivant, est allé jusqu'au bout de son amour pour chacun, au point de donner sa vie. Ça nous donne de la valeur. Jean-Marc dit souvent, toutes les patientes qu'il reçoit, abîmées par l'alcool, par la destruction, par les addictions, comment retrouver de la valeur ? Toute une génération, la mienne, qui a touché à la drogue, à toutes sortes de choses. Comment retrouver de la valeur après de la déchéance. On partage un texte ensemble dans l'épître de Jean. Je dis souvent que c'est parmi mes textes préférés, puis en même temps, il y en a tellement que ça ferait un livre. 1 Jean chapitre 4, les versets 16 à 19. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu fera toujours les premiers pas envers nous. Quelles que soient les difficultés de notre vie, de nos reniements, de nos renoncements, de nos difficultés à nous séparer de ce qui est difficile dans nos vies, toujours il nous tendra la main. Toujours il viendra et dira, oh voilà, je t'aime encore. Quelles que soient tes positions de vie. Après à nous d'avoir, de savoir quelle réponse donner, à nous de faire notre choix. L'amour parfait bannit la crainte. C'est aussi un travail. Il m'a fallu des années pour arriver à me sentir en sécurité à l'intérieur de moi, pour pouvoir vivre sans crainte, sans peur, que toutes les choses passées reviennent et qu'elles aient à nouveau de l'influence ou de l'autorité sur ma vie. Puis encore aujourd'hui, c'est des domaines où il faut veiller. Quelle peut être notre réponse au bras tendu, au regard, à cet amour que Dieu veut déposer dans nos vies? Il est gratuit. On dit, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de... Les amours humains, voilà, sont avec plein d'arrière-pensées. L'amour de Jésus est sans arrière-pensée. J'aimerais lire avec vous un texte chez Luc. Au chapitre 1. Au verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. On parle rarement de Marie dans nos églises, comme s'il y avait une pudeur. Il y a quelque chose. Moi, je trouve que c'est une femme extraordinaire. À l'époque, je pense que c'était une très jeune femme. Je ne sais pas, à l'époque, en Israël, à quel âge on se mariait. Est-ce qu'elle avait entre 14 et 18 ans? Je pense qu'elle était assez jeune. Et elle a vécu une rencontre avec Dieu, quelque chose qui dépasse l'imagination. En même temps, elle a reçu, elle a accepté la grâce de Dieu. Je ne sais pas si elle a tout de suite compris les implications, ce que cela pouvait être pour la suite de ses jours. Est-ce que c'est possible d'être sauvé? Les disciples, pendant un temps, ça les a perturbés. L'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Peut-être que pour les uns les autres, il y a besoin d'un ressourcement, d'un renouveau de l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole de ce matin, le témoignage que je vous donne qui est important, c'est la parole de Dieu. C'est toute la parole qui nous dit que le Père, le Fils, l'Esprit Saint nous aiment, ont un regard d'amour sur nos vies. Mais Marie a su prendre position. J'aimerais lire quelques versets plus loin. Dans Luc au chapitre 2, les versets 34 à 35. Siméon les bénit, dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute, le relèvement de plusieurs en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. À toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Ça fait partie de la mission que Marie a acceptée. Pas facile. Une épée te transpercera le cœur. Marie a continué à avancer, elle a eu d'autres enfants, elle disait que Jésus a eu des frères, des sœurs. Puis je me suis demandé, tiens, quand Jésus est mort sur la croix, Jésus a dit à Jean, voici ta mère, et il a dit à sa mère, voici ton fils. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ses enfants naturels qui l'ont pris en charge? Apparemment, Joseph, le père, le papa, n'était plus là. Marie a été confiée à Jean. Il nous a dit que c'est le disciple que Jésus aimait. Dans les textes que je vous ai cités tout à l'heure, la plupart sont des textes des évangiles, de l'évangile et des épîtres de Jean. On dit que Jean a été l'apôtre de l'amour. Celui qui est, je sais pas, le mieux réalisé, le mieux compris, en profondeur, l'amour que Dieu avait pour chacun. Marie a été jusqu'au bout. Malgré cette annonce aussi de souffrance, aimer, c'est souffrir. Alors peut-être que dans l'interaction, dans la relation avec le Dieu qui nous aime, c'est aussi peut-être dire oui à une certaine souffrance. Je pense qu'on ne le fait jamais avec gaieté de cœur. 42 ans, un soir, j'étais dans mon lit et le Saint-Esprit m'a dit « Est-ce que tu es prêt à souffrir ?» J'ai fait « Est-ce qu'il y a une autre solution ?» J'ai de ces manières peur que cette coupe s'éloigne de moi. Mais c'est pas moi qui décide. Parole prophétique pour Marie. Une épée te transpercera le cœur. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait un sens. Cette souffrance a eu un sens. Et je pense que si elle a passé la fin de sa vie dans la maison de l'apôtre Jean, ouais, ça a dû être quelque chose de réconfortant pour elle. Dieu ne l'a pas laissée seule, elle a été accompagnée jusqu'au bout. Est-ce que l'on est prêt à se laisser aimer en profondeur, même s'il y a de la souffrance? Est-ce que l'on est prêt à se séparer de ce qui encombre nos vies? Je peux vous dire que je vous aime, mais je pourrais pas, je peux pas choisir, et personne ne peut choisir à ma place. C'est à chacun de dire, de faire son choix. Je suis pas un grand champion pour parfois parler de l'amour. Voilà, je l'ai fait ce matin. Je ne sais pas si je le referai. Jusqu'à ce jour, je crois que je l'avais jamais fait. Voilà, mais à chaque moment de la vie, il faut aussi prendre ses responsabilités. Puis, comme on dit, mouiller son maillot un petit peu. Voilà, j'espère ce matin, en tous les cas, que ce message, qu'on pourra se laisser aimer les uns les autres par Dieu. Il est celui qui peut nous restaurer, qui peut nous guérir, qui peut résoudre les problèmes bien mieux que le pasteur, que les anciens, que l'Église, même si on a du soutien, même si on trouve de l'aide dans l'Église, d'avoir le contact direct privilégié, pour pouvoir dire « Abba, Papa ». Je vous raconte juste une dernière anecdote. Dernière année de collège, il me restait de l'écolage à payer. J'avais travaillé, mais il me restait, je ne sais plus quelle somme à payer. Puis un jour, le directeur m'a convoqué, M. Fribert, et puis il m'a dit, voilà, il te reste, je ne sais plus, 3 000, 4 000 couronnes, l'équivalent de 2 à 3 000 euros. Et puis là, j'ai fait... Quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton père dans le lieu secret qui te le rendra. Là, j'ai crié à Dieu, tout ma détresse. J'ai dit, voilà, j'ai été au collège public, je me suis formé, mais je n'ai pas un rond. Et je crois que c'est là aussi où le sens papa a pris un écho. J'ai dit, voilà, papa, t'es père, voilà, assume aussi tes responsabilités. Et puis sur le conseil du même directeur, vous voyez, qui était en même temps très gentil, j'ai écrit une grande lettre au conseil d'administration disant que dans ma pauvreté, j'aimerais bien un petit peu de soutien. Et c'est le fond des élèves, je crois, qui a permis, comme on dit, de faire la jonction. Voilà, comment est-ce qu'une relation avec Dieu Père peut aussi nous aider dans la vie, dans toutes nos difficultés. Voilà, je vous laisse avec toutes ces réflexions, et puis aussi face à l'écriture.